Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International, votre émission qui en fin d'après-midi sur RFI vous parle de football. Et nous commencerons aujourd'hui par la Juventus battue à Naples. Et voilà le calcio relancé. Malgré leur CR7, les Bianconeri ont plié face aux Azzurri du Napoli. Et derrière, Milan et la Lazio, tout en faisant du surplace, sont quand même en embuscade. Matteo Cioffi nous en dira plus. Atem Ben Arfa, club trotteur, le talentueux footballeur français formé à Lyon et passé par de nombreuses équipes de l'OM à Rennes, en passant par l'Angleterre, atterrit en Liga, accueilli à bras ouverts par Ronaldo le Brésilien, R9, l'actionnaire du club de Valladolid, qui compte sur Ben Arfa pour éviter la relégation. Un doublé pour Erling Haaland et voilà déjà 5 buts en 25 minutes de jeu en Bundesliga. Le jeune et solide Norvégien est-il l'épouvantail du Borussia Dortmund? Le PSG fin de l'ignorer, nous semble-t-il. Bonjour Naïm Moniol.
Bonjour Annie Gasnier.
Il devrait s'en soucier.
Ah, je pense qu'il devrait s'en soucier.
Mais je pense qu'il s'en soucie en fait.
Ouais, le disent pas, mais ils ont peur.
On leur pose pas encore des questions sur Haaland, mais on pose génériquement sur Dortmund.
On fait monter la sauce.
Exactement, nous aussi.
Sûr.
Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir toujours d'être avec vous,
bien sûr.
Mais moi, j'ai pas peur d'Haaland, je peux vous le dire.
Vous avez
en revanche, je crois que Dortmund a peur de Neymar et d'Mbappé.
Ça, c'est fort possible. Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Ali, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être au rendez-vous ici, vous, d'RMC Sport, notre voisin pratiquement, pas très loin dans ce coin de Paris. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Moi, j'ai très peur d'Haaland.
C'est vous qui toussez?
Oui, c'est moi qui tousse parce que j'ai très peur. Parce que j'ai très peur du Norvégien, il fait pratiquement le double de ma taille, c'est très impressionnant.
Un salut, un bonjour à Jacques de Kinshasa qui nous écoute dans son taxi à Paris. Il a rencontré Olivier Pron et voilà pourquoi nous disons bonjour à Jacques.
Ah, il parle aux gens, Olivier.
Olivier,
c'est une nouvelle ça.
Je crois qu'il a parlé de nous. Radio Foot, c'est parti.
Insigné, la frappe d'Insigné, le ballon voilà, j'ai aimé.
Il capolavoro di Lorenzo Insigne.
Lorenzo Insigne à la 86e minute pour doubler la mise. Le break est fait pour le Napoli. Ouais, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, un but. CR7 Cristiano.
On imaginait vendredi dans le Café des Sports un match volcanique entre ces deux clubs, ces deux frères ennemis de la Serie A. Et ce le fut, une vraie confrontation. Et au final, l'équipe de Naples en perdition au classement avec le successeur de Carlo Ancelotti a réussi à battre la Juventus de Turin sur son stade, la fameuse pelouse du San Paolo. Alors c'est une Juventus qui récemment avait récupéré la première place du Calcio. Le but de Cristiano Ronaldo en fin de partie n'aura pas suffi à ramener au moins un match nul de Naples. Matteo Cioffi, bonjour.
Bonjour Annie Gasnier.
Matteo Cioffi, première question avant qu'on parle du match. Comment a été accueilli Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Juve, natif de Naples, napolitain autrefois vénéré quand il dirigeait les Azzurri? On se souvient que le capitaine de cette équipe, l'auteur du deuxième but d'ailleurs dans ce match, c'est peut-être pas insignifiant, Lorenzo Insigne avait évoqué une trahison lorsque Sarri, revenant de Chelsea, avait signé avec la Juventus de Turin.
Oui, alors, Ali, on l'avait prévu que les tifosi napolitains n'auraient pas accueilli de manière tendre Maurizio Sarri, Mais on ne pensait pas que quelques-uns d'entre eux, à la veille du match, se seraient vraiment amusés. Hein, quel idiot, à déployer des banderoles très offensives vers l'entraîneur. Et c'est là, en différents endroits de la ville de Naples. Quand dimanche soir, Sarri est rentré sur la pelouse, et il a été submergé par les sifflets. Et le seul à avoir montré du respect pour lui ont été ses anciens joueurs et Gennaro Gattuso. C'est donc une histoire d'amour qui s'achève définitivement, et pourtant les Napolitains, si on y pense, ont aimé Maurizio Sarri presque comme il avait fait avec Diego Armando Maradona. Pour ce qui concerne Lorenzo Insigne, il devrait juger, pas jouer moi les choix des autres, car dans le football moderne aujourd'hui, on joue à Naples, mais demain, en un bout de souffle, on pourrait se retrouver avec le même maillot de son pire ennemi.
Et oui, c'est d'ailleurs le cas de Higuaín, hein, qui a eu quelques pérégrinations avant d'arriver du côté de la Juve.
Surtout qu'ils sont quasiment tous en fin de contrat, les joueurs à Naples, donc la plupart ils vont se barrer en fin de saison.
Mais oui, si ce n'est qu'il y en a en plus qui sont déjà partis. Matteo, ce match, ça a été une vraie confrontation, quelque chose de très dur.
De très dur pour la Juve, sûrement, parce que le Napoli a vraiment dominé le match. Et il faut reconnaître un grand mérite à Gennaro Gattuso qui a construit un schéma de jeu qui n'a rien laissé au bianconeri. Il faut imaginer que le premier tir de l'équipe de Maurizio Sarri vers le but adverse est arrivé à 10 minutes de la fin du match. Donc vous pouvez bien comprendre
quel est
le leitmotiv de ce défi-là.
Eh oui. Naïm Moniol, oui, oui. Est-ce que ça... On avait dit vendredi dans le Café des Sports, vous n'y étiez pas, mais on racontait, ça, il nous semblait qu'il y avait quand même un bon fond de jeu dans cette équipe. Elle s'est plutôt écroulée, une implosion interne, plutôt que sur son jeu.
Naples, le jeu qui a été mis en place à l'époque justement par Maurizio Sarri, a quelque peu survécu parce que finalement les joueurs ont très peu changé, il n'y a quasiment pas eu de départ à Naples. Après, le souci qui s'est passé à Naples, c'est qu'avec Carlo Ancelotti, ça n'a pas matché avec
sa première année.
La première année, mais bon, le problème c'est qu'il y a une deuxième année, et la deuxième année ça n'a pas marché. Et puis certains après ont quand même un petit peu pris le melon, il y a des
velléités de départ. Il y a des problèmes avec le président du club aussi.
De Laurentiis, à la rigueur, il fait ce que tout président doit faire, c'est-à-dire que vous avez des joueurs qui ne veulent pas aller en mise au vert, qui ne veulent pas jouer, il est obligé de sévir. Vous avez un entraîneur qui pose problème, même si c'est toujours plus facile d'en virer un que d'en virer 11, vous le changez. Bon, je ne dis pas qu'il a raison, mais je dis que c'est l'attitude, ça va dans le sens de l'histoire d'un club de foot. Le problème après à Naples, c'est qu'il y a eu des tensions entre les cadres, notamment avec Mertens, avec Insigne, que ça n'a pas marché et que le jeu s'en est ressenti. Ils ont pris Gattuso reste sur une victoire contre la Lazio en Coppa, une victoire contre la Juve en championnat. Très bien, ça ne fait pas de Naples une équipe qui va revenir, ça ne fait pas de Naples une équipe qui va tout gagner jusqu'à la fin de saison, parce que je pense que c'est une équipe qui est tout simplement en fin de cycle, avec des joueurs qui vont s'en aller, dont certains sont encore d'ailleurs blessés, et puis ça va se terminer comme ça. Mais pour... à l'instant T, c'est une vraie victoire importante pour la vie, pour la suite de la saison.
Ah bah oui, on aurait dit une vengeance même, hein, d'une certaine manière de cette équipe. Mais c'est vrai que Napoli est encore très loin au classement. Mais c'est une équipe qui faisait ce mano à mano pendant les dernières saisons avec justement la Juve.
On en parlera de l'Inter dans quelques minutes. À la base, c'était Naples qui était à ce niveau-là et qui effectivement
jouait. Avant, il y avait la Roma, après il y avait Naples.
Avec la Juve, mais c'est vrai que Naples en est loin aujourd'hui. Après, Gattuso, je vais compléter le propos de Naïm. Effectivement, reste sur deux victoires, en plus de victoires de prestige. Hein, vous battez la Lazio, vous battez la Juve. Après, globalement, quand même, depuis l'arrivée de Gattuso, c'est pas non plus transcendant ce que propose Napoli, loin de là même. Après, il y a une chose quand même, parce que quand vous battez la Lazio et la Juve, c'est-à-dire que les joueurs ont quand même du caractère et veulent montrer et montrer à tout le monde, parce que, et on disait, certains sont aussi en fin de contrat et vont montrer et veulent montrer que on est capable de jouer face à des gros, on est capable de gagner face à des gros. Donc n'hésitez pas en fin de saison à nous prendre. J'espère que c'est pas que le message qu'ils veulent envoyer, mais c'est aussi sans doute ça de la part de certains joueurs.
Ouais. Hervé.
Oui, ben moi j'étais un petit peu surpris parce que je pensais franchement que la Juve fera un coup à Naples, parce que là c'était une manière aussi de signer peut-être, alors si ce n'est le titre, en tout cas une petite envolée,
oui,
hein, parce
qu'il y a eu l'échec de l'Inter. S'installait.
Oui, parce qu'on pensait que l'Inter contre Cagliari quand même remporterait les 3 points, ils font un match nul, les autres les rejoignent sur la fin. Donc moi je me suis dit, tiens, c'est le bon moyen à un moment, surtout un Naples qui allait pas très bien. Et puis là tu parlais de Gattuso, effectivement tout le monde se posait déjà des questions sur Gattuso. Bon, je me souviens qu'il y a très longtemps, quand il avait pris Milan dans une émission ici, on avait dit il ressemble pas du tout à un entraîneur, mais il a, je crois qu'il a pas changé depuis. Le costume me paraît un peu particulier pour lui. En tout cas, c'est un homme de coup, donc pourquoi pas un match contre la Juve, pourquoi pas un match contre la Lazio. Maintenant, un entraîneur, surtout de ce calibre-là, dans des clubs aussi ambitieux, c'est la longueur. Vous jugez quelqu'un sur la longueur.
Tu sais, pour compléter le propos d'Hervé, quand il dit qu'il a été surpris, la Juve en Italie a un peu le même problème qu'avait le Barça avec Valverde, c'est-à-dire que les résultats sont là puisqu'ils sont leaders, ils gagnent des matchs, mais le fond de jeu est très critiqué par les supporters et c'est une équipe qui déçoit beaucoup. Et si vous regardez, alors je vais pas parler de Pjanic parce que lui il a été blessé, mais sur un match comme ça, démarrer avec Higuain en pointe, qui ne court plus beaucoup, démarrer avec Dybala qui a un poste qui n'est pas vraiment le sien, et puis derrière Rabiot qui est rentré, Bettencourt également, qui n'ont pas fait le job, en tout cas pas comme ils auraient dû, bah si, ça c'est à la charge de Maurizio Sarri. Donc il s'est vraiment trompé sur son coaching sur ce match-là, et comme c'était déjà le cas contre la Lazio, ça fait deux matchs importants qu'il perd avec des responsabilités.
On va l'écouter d'ailleurs, Maurizio Sarri, parce que c'était peut-être une manière de cacher sa déception, ou peut-être réellement est-il sincère. En tout cas, il n'était qu'éloge pour les Napolitains.
Je suis content pour mes anciens joueurs, à qui je reste très lié, et je le serai pour toujours. Et si je dois perdre un match, alors il valait mieux le faire contre Naples, car je leur dois beaucoup. Avec cette victoire, ils commenceront à se ressaisir et sortir de l'actuelle phase négative. Et ça me fera très plaisir, même si j'espérais que ça leur arrive à partir de la semaine prochaine.
C'est quand même amusant comme en sortie de match.
Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup rigoler les supporters de la Juve.
C'est ça, nous on est à l'extérieur de ça, on n'est pas forcément fan de la Juve
ou du
Napoli, mais c'est invraisemblable de dire ce genre de jeu. Je suis fan de la Juve demain, je dis mais mon coach il est malade, il est en train de dire que Naples qui nous a battu, qui est l'un de nos ennemis, a fait un bon match, mais il est complètement fou.
Oui, mais c'est lui. Il faut voir, non mais c'est un personnage très à part. Moi j'ai discuté avec des joueurs qui l'ont eu comme entraîneur, et il est dans son monde. C'est-à-dire qu'il fait ses entraînements par exemple, alors ses entraînements il paraît très très intéressant, hein, parce qu'il a beaucoup de jeux, beaucoup d'idées dans la position de balle, dans les sorties de balle, etc. Et puis une fois que l'entraînement se termine, c'est terminé, il vous parle même plus, vous savez même pas qu'il existe, il prend sa clope et hop, on passe à autre chose.
À la Bielsa,
c'est tout à fait Bielsa, c'est-à-dire qu'il est dans son monde. Alors effectivement, il peut tout à fait dire ça. Ça me rappelle en France, par exemple, un Christian Gourcuff qui, après un match, son équipe a gagné 3-0. On a été nul, c'est vraiment pas bien. Puis une fois, elle perd. Elle dit l'équipe adverse était vraiment bien. Je la félicite pour le jeu pratiqué. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens un peu dans leur monde.
Mm-hmm. Hugo ?
Oui, en même temps, c'est quelqu'un qui a connu le haut niveau assez tard, hein, parce qu'il est déjà assez âgé. Oui, il n'a pas une longue carrière, ni en tant que joueur, ni en tant que.
Mais en tant que banquier,
il est très haut niveau, je parle.
D'accord, mais encore une fois, il est.
Il n'a pas les codes.
Ce que je veux dire, c'est qu'il a d'autres codes, exactement.
Oui, d'accord. Mais autour de la table, on est tous d'accord pour dire qu'il est quand même quelqu'un de très intelligent. Pour être pour être entraîneur, c'est pas rien. Il sait quand même qu'il y a une rivalité entre le Napoli et la Juve. On peut pas se permettre de se mettre à dos.
Il est assez frais. Il a un côté frais.
Plus ça va, plus je me dis que ce mec a quand même une personnalité très bizarre. Finalement, il est peut-être fait pour des clubs justement comme Naples. C'est des clubs particuliers, une ambiance particulière, un public particulier, ça vit un peu en marge du football. Parce que regarde à Chelsea, regarde à la Juve, des clubs de haut niveau, un peu codés, un peu... Faut faire gaffe à l'image, faire gaffe à la vitrine, on représente une institution. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça pêche. Et ça peut tout à fait être ce genre de personnalité, un peu comme Bielsa, très forte dans le football, avec de bonnes idées, mais qui ne correspond pas vraiment au foot moderne.
C'est pas Allegri, quoi. Non. Hugo ?
Oui, je voulais interpeller Matteo et aller un peu dans le sens de Naïm. Moi, je veux bien qu'il lui en veuille. À Maurizio Sarri, les supporters du Napoli, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'en allant chez l'ennemi, il ait importé tout son savoir-faire, toute sa qualité de jeu, toute sa science du jeu. Ça joue pas aussi bien que jouer son Napoli, et peut-être qu'au final, il n'y a pas forcément de quoi regretter son passage chez l'ennemi. Plus sérieusement, on se demande tout simplement, Matteo, si on n'est pas en train d'apercevoir certaines limites pour Maurizio Sarri du côté de la Juventus Turin, alors que ça amorce une deuxième partie de saison extrêmement décisive. C'est un peu comme le Paris Saint-Germain, la Juve, c'est à partir de février que la saison commence vraiment.
Matteo.
Oui, en effet, mais il faut dire une chose, que c'est pas facile pour lui de prendre la relève de Massimiliano Allegri, qui avait gagné les 4 derniers championnats. Si on fait une comparaison entre la Juve de cette année et la Juve de l'année passée, il y a 11 points d'écart en moins pour celle de Maurizio Sarri. Donc déjà, cela explique qu'il y a quelque chose qui cloche. Même en défense, les choses ne vont pas très bien. La Juve a encaissé 21 buts en 21 matchs, 9 en plus par rapport à la saison dernière. Donc pour lui c'est vraiment pas facile, mais pour retourner aux déclarations qu'on vient d'entendre, vous avez remarqué, je sais pas si vous l'avez fait, mais lui il parle des joueurs, il remercie les joueurs, mais il dit rien des tifosi napoletains. À mon avis, ça c'est un signal qu'il a très mal vécu les sifflets qui l'ont accueilli l'autre soir à Naples.
Oui. Certainement, c'était beaucoup plus personnel et beaucoup plus dur, Hervé.
Et oui, on peut le comprendre, parce que c'est pas comme s'il était passé de Naples à la Juve tout de suite. Non. Alors là, je peux comprendre, c'est un peu comme en France, un Rudy Garcia qui passe de l'OM à Marseille en 3-4 mois, mon pote.
On a l'impression que c'est un peu fait exprès, hein, ce petit crochet par l'Angleterre.
Ah, je pense que non.
Il y avait déjà des rumeurs qui l'emmenaient vers la Juve.
Oui, mais enfin, il n'a pas fait l'erreur d'y aller tout de suite, en tout cas. Ouais. Et il est parti à Chelsea. Donc après, il a le droit d'aller travailler à la Juve, qui est quand même le plus grand club, un des plus grands clubs européens. Le plus grand club italien avec l'AC Milan AC.
C'est pas voilà, le plus grand club italien vient de chercher, il peut éventuellement aller chercher la Ligue des Champions, c'est quand même pas difficile à concevoir.
C'est l'ambition d'un entraîneur de très haut niveau qui se dit, est-ce que mes méthodes peuvent marcher avec un club comme la Juve ?
Matteo, justement, est-ce que cette défaite de la Juve a relancé le calcio ? Alors en plus, Juventus, on dit que effectivement tous les joueurs, c'est un petit peu différent de l'année dernière. Une Juve, il y a des rumeurs ici que vous voulez acheter Kurzawa. Alors déjà,
échanger
après Rabiot,
avec Desiglio,
Kurzawa, bon. En tout cas, est-ce que c'est Juventus qui a seulement 3 points d'avance sur l'Inter, 5 points sur la Lazio, hein, est-ce que cela a relancé le calcio selon vous? Alors que la semaine dernière, on avait l'impression que bon, ça y est, elle s'était installée et qu'elle a déjà gagné 8 titres et qu'elle était partie pour le 9e.
Bah, alors, je réponds de cette façon, Annie. Depuis que je suis journaliste sportif, j'ai appris une chose, et je ne suis pas le seul. Jamais donner pour morte une vieille dame comme la Juventus.
D'accord.
Voilà, non, donc il y a cette règle à savoir, mais en même temps, il faut reconnaître qu'elle est bien connue. Ils ont très mal préparé le match contre le Napoli, une prestation qui a soulevé pas mal de doutes. Là, le super trio Ronaldo, Higuain, Dybala nécessite encore du temps pour devenir vraiment impitoyable et fort. Ensuite, il y a quelques autres doutes aussi sur cette équipe. C'est le cas, par exemple, de Blaise Matuidi, qui traverse souvent des passages à vide. On a la sensation qu'il a des problèmes de rythme que l'année passée, il n'avait pas. L'année passée, il assurait vraiment le top à chaque match. Donc, on a dit ça, on a dit que les choses ne vont pas très bien en avant. Au milieu de terrain, c'est le même discours. En défense, on vient de le dire, 21 buts en 21 matchs, c'est trop. C'est vrai, Matisse De Ligt, qui a été payé énormément, n'est pas Giorgio Chiellini, mais c'est aussi vrai que le Néerlandais ne peut pas être le seul coupable de ces 21 buts.
De ces
problèmes. Donc c'est un peu un chantier ouvert et moins invincible par rapport à l'année passée.
Ouais. Hervé.
Oui, mais enfin, c'est logique que De Ligt soit pas Chiellini, hein, parce que tu sais, Chiellini est devenu Chiellini au fil des années. C'est-à-dire, De Ligt, on peut lui donner au moins 2-3 ans avant d'être
ans,
c'est un jeune joueur, qui apprend en plus, qui découvre un nouveau championnat. Et quel championnat au niveau de la qualité défensive.
Et l'intensité.
Donc, mais ce qu'on peut vous mettre en avant aussi, c'est quand même Ronaldo. Parce que Ronaldo qui marque un 8e but sur un 8e match consécutif, c'est phénoménal. Mmh. C'est-à-dire qu'on croyait en fin de saison dernière qu'il commençait un petit peu, alors si ce n'est à piquer du nez, mais qu'il n'y avait pas la forme étincelante de ces années madrilènes, et bien là on a l'impression qu'on retrouve un jeune homme.
Il n'a pas la coupe de cheveux étincelante de ces années madrilènes. Hein.
C'est
il
vrai,
a une
c'est
queue
vrai.
De cheval,
c'est
là.
Vrai c'est...
Il y a une espèce de petite couette sur la tête un peu bizarre.
Mais c'est le verre à moitié plein que je voulais souligner, c'est que la Juve arrive désormais, comme les grosses équipes, j'entends européennes, arrive sur ce mois de février avec la Ligue des Champions qui revient, les huitièmes de finale, et on sait
contre Lyon.
Et on sait que certaines de ces équipes, la Juve, potentiellement en tout cas dans sa préparation fait partie, ces équipes montent en puissance à ce moment-là, que ce soit en Champions,
et
également Serie A.
Et Naples dont on parlait, Naples qui recevra le Barça, parce que eux aussi, hein,
quelque
ils ont
chose
une Ligue
quand
des
même
champions.
De différent cette saison dans le sens de Salim, c'est que sur les années précédentes, la Juve abordait la Ligue des Champions avec 12 ou 15 points d'avance sur le deuxième. Là, la situation en championnat fait qu'ils vont avoir une marge de manœuvre plus restreinte.
C'est vrai.
Et que même s'ils sont évidemment
favoris.
Il y a
une année où le Napoli les avait fait un peu
douter. Oui, il y a deux ans. C'est vrai,
justement,
il y a deux ans,
Sarri,
ils les avaient un peu talonnés. Mais globalement, sur les 6-7, c'est quand même la Juve est très loin devant. Là, cette année, c'est différent. Ils ont une marge de manœuvre très restreinte. Et même s'ils ne sont pas favoris face à Lyon, on n'a pas commencé à retourner la veste, c'est une équipe qui peut être ennuyée par Lyon, qui peut laisser des plumes, perdre des joueurs. Et sur cette fin de saison, plus que jamais, la Juve est peut-être en danger. Moi, je suis d'accord pour dire que le calcio est relancé.
Oui, mais à contrario, c'est peut-être une bonne chose d'avoir enfin un peu d'adversité. Ça vous tient en éveil quelque part. Et puis, on sait que la Juve, elle a beaucoup recruté ces dernières années. Elle a pratiquement doublé tous ses postes. Donc, elle a des réserves pour jouer sur les deux compétitions.
Si je peux me permettre, c'est que sans adversité, elle a quand même fait deux finales de Ligue des Champions, ce qui prouve qu'elle peut aussi s'en sortir sans. Et deuxièmement, elle a beaucoup recruté. Quand tu vois aujourd'hui l'état du milieu de terrain, aujourd'hui, si tu perds, par exemple, Pjanic, tu fais jouer Bettencourt. Hein, et si tu perds Dybala, tu fais jouer Bernardeschi. Et là, la probe, alors là, il va peut-être quitter, mais Desiglio est quand même un joueur qui régulièrement fait soit la droite, soit la gauche. Ça veut dire que t'as beaucoup recruté, tu vas perdre Emre Can qui devrait, a priori, partir au Borussia Dortmund. Donc t'as beaucoup de postes doublés, mais t'as beaucoup de blessés. Et t'as finalement des joueurs qui sont en forme et qui se sont pas non plus imposés vraiment dans cette équipe. Ouais. Donc au final, t'as 25 joueurs à disposition, t'en as 15 ou 16 qui ont vraiment le niveau.
Je reprends le propos d'Hervé, Cristiano Ronaldo. C'est pour lui, la Ligue des Champions, il la veut tellement avec la Juve.
L'année dernière aussi, il l'a voulu.
Bien sûr. Et il avait été exceptionnel face à l'Atletico, si on s'en souvient. Donc malgré tout, ne serait-ce qu'avec Cristiano, j'attends cette Juve. Alors, c'est un poncif, on va me dire ça, évidemment. Malgré tout, avec lui,
on vous dit
oui.
Et j'ai du mal à imaginer Lyon leur poser des problèmes, vu la défense lyonnaise.
Et c'est un spécialiste de Lyon.
Sans leur poser des problèmes, tu peux les faire galoper, faire perdre des plumes, tu peux leur blesser des joueurs, tu peux faire tout ça. Lyon, comme ils ont fait contre le match aller contre le Barça l'année dernière.
Lyon se surpasse en Ligue des Champions quand même, Hervé, on a l'habitude.
Lyon se surpasse en Ligue des Champions, a eu quand même pas mal de chances de passer, parce que lors du dernier match, Leipzig étant déjà qualifié, s'il avait fallu gagner, je pense qu'ils pouvaient gagner à Lyon. Mais ça fait partie de l'histoire d'un groupe, hein, de toute façon. Donc, non, mais ils vendront chèrement leur peau. Mais je crois que la Juve, c'est quand même un obstacle un peu trop élevé. Et le problème de la Juve pour eux, peut-être même contrairement à Barcelone, je ne sais pas, c'est qu'en général, ils ne chutent pas contre des équipes vraiment inférieures.
Il y a eu l'Ajax l'année dernière.
Oui, mais l'Ajax, c'était quand même du très haut niveau.
Ah, bah, sur le papier, si, c'était
mais
inférieur.
C'était pas Lyon. C'était pas Lyon.
Pas sur la forme du moment.
Il n'y avait pas un tel écart Juvio que Juve-Ajax. C'est ce que je veux dire.
Je ne suis pas d'accord avec ça.
Ah bon?
Non, je suis pas d'accord avec ça.
Mais ça sera un autre débat.
Ça sera un autre débat.
On a le temps, c'est pas encore la Ligue des Champions. Matteo, juste pour terminer, le Milan AC ce soir jouera en Coupe d'Italie face au Torino. Ce qui est intéressant, c'est que les Milanais porteront le deuil et ils porteront le deuil d'un grand basketteur.
Oui, et ce basketteur s'appelait Kobe Bryant. On connaît tous malheureusement son histoire. Kobe était un amoureux du football et surtout un grand tifoso de l'AC Milan. Un amour né lorsqu'il vivait en Italie, c'est-à-dire à partir de la moitié des années 80. Il se déplaçait d'une ville à l'autre pour suivre son père qui jouait en première division italienne de basketball. Le coup de foudre pour les Rossoneri avait coïncidé avec l'arrivée à Milan de Marco Van Basten, que Kobe Bryant admirait plus que tout. En 2013, Kobe avait fait une visite à Milanello, le centre d'entraînement de l'AC, et ce jour-là, il avait déclaré être ici, c'est mon rêve qui devient réalité. Ce soir, vous l'avez dit, les joueurs du Milan porteront un brassard noir en signe de deuil et une minute de silence sera observée à la mémoire du grand champion américain.
Mmh, qui avait effectivement un vrai lien avec les Rossoneri. Il y a des photos où il porte ce numéro, où les Rossoneri lui avaient offert un maillot au numéro 24. Hervé.
Oui, et puis c'est un ami de Didier Drogba aussi, hein, parce que je me souviens d'avoir parlé avec Drogba. Mais alors, dans tout ce que j'ai pu lire sur que Brian, il y a une chose quand même qu'il rapproche de Ronaldo, c'est-à-dire que c'était un fou d'entraînement. J'ai lu qu'il arrivait à venir des fois à 4 heures du matin à l'entraînement, avant même que tout le monde soit là pour bien montrer qu'il fallait bosser pour réussir.
En basket.
Donc ça m'a rappelé Ronaldo. Je dis finalement, il y a un lien entre Ronaldo et Kobe Bryant.
Mais à un moment donné, quand vous voulez être le meilleur, il faut être pro sur le terrain et en dehors.
Exactement. Et c'est sans doute ce qui rejoint toujours les grands champions. C'est là qu'ils se reconnaissent. Merci beaucoup, Matteo Cioffi, d'avoir été en direct dans Radio Foot. À très bientôt. Ciao, ciao.
Merci à vous.
Merci. Forced to Cummings, he's got away from Lovren, and he scored! The substitute's done it again, Jason Cummings has two, and Shrewsbury a level! What a moment for Shrewsbury Town!
Incroyable scénario ici, Shrewsbury qui tient tête à Liverpool! L'envahissement du terrain parce que c'est une prestation historique des Shrews aujourd'hui face à la meilleure équipe du monde, l'équipe de Liverpool.
Et les Reds ont calé. Certes, ils n'ont pas perdu, mais ils n'ont pas gagné leur match de FA Cup. Quatrième tour disputé donc face à un club de Détroit. Shrewsbury Town, c'est ça?
Comment vous dites?
Shrewsbury. Alors, j'ai regardé sur une carte pour savoir où c'était, parce que j'aime bien donner des indications à nos auditeurs. C'est du côté de Wolverhampton.
Oui, sud-ouest de l'Angleterre, pas loin du Pays de Galles.
Tout près du Pays de Galles, au sud de Liverpool. Un match donc, quand on mène 2-0 et qu'on se laisse rattraper, ce qui oblige à jouer un replay, puisque là-bas, il n'y a pas de tir au but en sortie de temps normal, voire de temps additionnel. Est-ce que ça fait tâche pour des rouges, Salim Bongali?
Ah oui, ça fait beaucoup causer en Angleterre de mener, comme vous l'avez dit, 2-0 sur la pelouse de Shrewsbury Town, donc un club de 3e division anglaise, d'être assez tranquille, hein, puisque Shrewsbury...
Ils connaissent pas la Coupe de France française, alors, en Angleterre, parce que nous, on a souvent des commentaires à
oui,
faire.
Non, pour le coup, ils sont restés assez calmes. En tout cas, à 2-0, ils étaient assez calmes, les joueurs de Liverpool, et puis tout d'un coup, ils se sont lâchés, ils se sont laissés absorber ou tranquillisés, j'ai envie de dire, par cette équipe adverse qui a réussi à égaliser, donc à obtenir cette égalisation. D'ailleurs, dites-vous que le coach de Shrewsbury, après le match, il a d'ailleurs clairement expliqué, j'espérais que mon équipe ne marque pas un troisième but. Ça peut paraître surprenant, dit comme ça, parce que je veux jouer à Anfield. Ah oui, vous voyez, comme quoi le replay en Angleterre, c'est quelque chose qui est vraiment inséré dans l'esprit des gens. On préfère avoir ce replay pour jouer dans un grand stade que aller en prolongation.
Parlez de ce match quand même, parce que c'était un peu folklorique, entre guillemets. C'est-à-dire, c'était sur un stade à dimension humaine, hein, parce que maintenant, où on peut rentrer sur la pelouse en fin de partie,
évidemment,
où on peut exprimer sa joie, enfin, c'était champêtre.
Oui, on peut envahir le terrain parce qu'on est content d'avoir fait match nul, effectivement. Et puis, c'est un terrain, une dizaine de milliers de places, quand même, hein, pour un club de 3e division, donc c'est pas si mal que ça par rapport à ce qu'on connaît en France. Mais c'est vrai que ce match-là, malgré tout, il faut bien se dire une chose, c'est que Liverpool n'a pas voulu le prendre de haut. Il y avait quand même certains joueurs qui étaient là, je pense à Origi qui était titulaire, Minamino, le japonais, l'ancien de Leipzig, qui était présent titulaire,
Fabinho, Matip.
Matip qui était là, il y avait pas
Salah
des joueurs lambda, hein, qui étaient,
ouais,
qui étaient absents, Oxlade sur le banc, Salah sur le banc, Firmino sur le banc, enfin voilà, il y a pas des joueurs lambda, et d'être monté comme ça, ça fait parler en Angleterre, surtout à cause du replay, et le replay on en parlera, ça, qui fait encore plus parler d'ailleurs.
Il y a eu une petite scène avec Gary Lineker qu'on a vu sur les réseaux sociaux. Salim a raconté cette scène parce que c'est assez marrant, ce commentateur qui est dans une des cabines donc de commentateurs là autour du terrain, et en fait il a la coupe et il va la brandir, hein, la montrer en fait à l'équipe qui vient d'égaliser, et c'est le délire comme s'il l'avait gagné,
oui,
en
non,
fait
mais encore,
en arrachant le nul.
Juste, j'insiste sur une chose, sur la notion de FA Cup en Angleterre.
Parlez-nous d'Anfield alors, parce qu'ils vont aller jouer à Anfield, c'est la fête en fait pour eux, c'est d'aller, le privilège de jouer sur cette pelouse.
Oui, il y a deux choses. En fait, déjà, la notion de FA Cup, je rappelle, c'est le plus ancien trophée au monde, FA Cup, qui a donc une valeur très importante en Angleterre, surtout pour les petits. J'insiste pour les petits malheureusement, puisque les grands, comme en France, comme en Espagne, comme en Italie, désormais ont fait beaucoup tourner lors des coupes nationales. Donc évidemment, pour les grands clubs anglais, désormais, ça a une valeur moindre. Et surtout, le fait de jouer à l'extérieur dans un grand stade, là en l'occurrence en dessous, mais ça aurait pu être la même à Old Trafford, n'importe où. Lorsque vous vous déplacez, vous avez une tribune qui vous est totalement réservée. On sait que pour Shrewsbury, il y aura a priori près de 6000 supporters qui vont faire un déplacement qui vont aller à Anfield. 6000 de leurs supporters, c'est un chiffre qui paraît aberrant.
Oui, mais ils vont avoir, stade de 10 000 places. Oui.
Voilà, ils vont avoir une chance de dingue de pouvoir aller à Anfield. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion-là de pouvoir
fait,
jouer
quoi.
Ce replay et de pouvoir aller dans le stade adverse en Angleterre. C'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus. S'il y avait eu prolongation, ça aurait été anormal en Angleterre.
Alors revenons sur le match. Est-ce que pour vous, Naïm, c'est grave ou on se souvient de cette équipe des Reds qui joue, qui a un calendrier infernal,
ça,
surtout ces derniers temps où
mais
ils
c'est
ont
ça,
fait le...
la Coupe du Monde des clubs entre la Ligue des Champions.
Déjà, ils s'étaient plaints à l'époque.
Ils avaient une équipe C, vous avez pris 5-0 contre Aston Villa parce qu'ils étaient en même temps en Arabie Saoudite. Pour jouer la Coupe du... En fait, c'est trop. Moi, je ne minimise pas la performance de Shrewsbury. C'est très bien. De deux, ils vont aller jouer à Anfield. Et puis, c'est une équipe qui est 16e en 3e division. Donc, bon, ça va quand même un peu égayer leur fin de saison. Mais c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Quand bien même, il aurait mis 3-4 titulaires. Liverpool est une des équipes qui, depuis, on va dire, novembre, a joué le plus. Ils enchaînent les matchs avec un effectif qui, finalement, tourne très peu.
Exactement.
Et c'est beaucoup trop. C'est pas possible, en fait.
Résultat. Jürgen Klopp a annoncé hier une décision assez radicale, mais sans doute attendue. Écoutons-le.
J'ai dit aux gars il y a 2 semaines que nous aurions une trêve hivernale, ce qui signifie que nous ne serons pas là pour disputer notre rencontre face à Shrewsbury. La Première Ligue nous a demandé de respecter cette trêve hivernale. C'est ce que nous faisons et c'est l'équipe des jeunes qui nous remplacera. Je sais que cette décision n'est pas très populaire, mais nous devons respecter le bien-être des joueurs. Ils ont besoin de repos. Ils ont besoin d'un repos mental et d'un repos physique. C'est la raison même de la trêve hivernale.
Alors, soulignons-le, la trêve hivernale, ça reste en hiver pour les Anglais, mais c'est pas au moment des fêtes.
Oui, en fait, c'est une première. Je vous rappelle qu'il y a une trêve hivernale en Angleterre. Ça n'a jamais été
l'année dernière.
Voilà, et c'était décidé pour ce mois de février. Mais c'est une trêve particulière en deux week-ends. Lors du premier week-end, en fait, c'est une journée qui est divisée en deux. Il y a 4 matchs qui vont se dérouler sur un week-end et 6 matchs sur l'autre week-end. C'est-à-dire que les 12 équipes qui sont couronnées par le deuxième week-end, ben, sont en vacances le premier week-end et vice versa, en fait. Liverpool ne joue pas le premier week-end.
C'est une petite semaine, quoi.
Voilà, même plus que ça, pour Liverpool, par exemple, c'est quasiment une dizaine de jours entre le match d'avant et donc le match suivant. Et Liverpool, le problème, c'est que le replay tombe pendant cette période-là. Donc, Jurgen Klopp dit, c'est pas juste, moi, j'ai envie que mes joueurs se reposent. En fait, on va être très clair, Liverpool doit aller à Dubaï. À ce moment-là, en fait, pour se reposer à Dubaï. Bah oui, c'est pas mal.
C'est bien connu, c'est là-bas qu'on se repose le mieux.
Eh oui, exactement. Mais on parle de, je parle de Liverpool. Comme...
Il y a les termes de Vichy et Dubaï.
Je parle de Liverpool comme je parle d'Arsenal qui ira aussi. Il y a beaucoup de clubs qui vont y aller. Donc c'est bien connu. Donc il faut aller à Dubaï. Alors officiellement que pour se reposer, officieusement pour aussi promouvoir et vendre la marque Liverpool. Pas jouer de match. D'ailleurs, c'est une des conditions pour l'instauration de cette trêve avec la Première Ligue. C'est que la Première Ligue a instauré cette trêve, mais les clubs ont interdiction de jouer des matchs amicaux pendant cette période-là. Donc voilà, Jurgen Klopp et Liverpool doivent aller se reposer. Conséquence, on n'envoie que des jeunes. Ce seront les mêmes jeunes que lors du match face à Aston Villa. Après, le seul avantage, c'est de pouvoir jouer à Anfield.
Hervé, est-ce que ça veut dire qu'il y a un certain manque de respect à l'adversaire ou un certain manque de respect pour la compétition, ou simplement Jurgen Klopp et les calendriers actuels font que finalement il n'a pas le choix?
Ah mais moi je pense qu'il n'a aucun choix. Alors déjà, il avait envoyé une équipe qui était, c'est même pas un bis, c'est B-bis, mais il n'empêche qu'il y avait quand même quelques stars sur le banc de touche, qu'il a fait rentrer d'ailleurs, donc ça prouve qu'il comptait bien gagner ce match à Shrewsbury. Le problème, c'est qu'il y a eu ces deux buts, et à partir de là, il y a la Ligue des Champions, il y a surtout le championnat à finir invaincu, parce que je ne peux pas imaginer aujourd'hui que ce n'est pas ça l'option
majeure. Et puis ils jouent demain, ils vont jouer leur match en retard contre West Ham, et puis ils rejouent Southampton ce week-end, et c'est trop.
Enfin, il y a trop de matchs, et puis surtout je pense que maintenant il va y avoir l'obsession de la saison invaincue. Parce que ça, inévitablement, ça va venir. Parce qu'on peut se dire, Wolverhampton, c'est pas facile. Boum.
Ah oui.
On y arrive, on s'impose là-bas. En plus, ils gagnent tous leurs matchs. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont fait un match nul. Oui. Un match nul, sinon ils gagnent
tout. En 21 rencontres.
Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit incroyable dans cette équipe. Lui, il n'a pas envie de perdre ça. Ils viennent de perdre Sadio Mané pour aller, disons, 2-3 semaines.
Deux semaines, a priori.
Minimum, ouais, deux semaines.
Il sera de retour après la trêve, normalement.
Entre 2 et 3 semaines, on ne sait pas exactement combien de temps. Donc là, maintenant, il faut mettre tous les joueurs dans le formol. Donc ce match-là, ils vont faire comme contre Aston Villa. Ils ont pris une claque à Aston Villa.
Ah oui, dans le formol.
Ah bah oui, sur les 10 jours,
si
là.
Si vous pouvez le faire demain, c'est face à West Ham, ce serait pas mal aussi. Ce serait pas mal si vous faisiez demain face à West Ham aussi.
Mais et qu'est-ce qui serait plus intéressant? C'est que Liverpool finisse quand même invaincu ou que ton West Ham gagne un match? Parce que ce serait quand même
pour
beau,
l'histoire.
Franchement, pour l'histoire, ce serait quand même beau d'avoir une équipe qui termine invaincue. Ce serait un truc incroyable. Et alors, invaincu de cette manière-là, parce que si vous continuez sur ce rythme, à la fin de la saison, vous allez finir par vous dire, est-ce que c'est pas la plus grande équipe de l'histoire?
Exactement.
Alors, pas les meilleurs joueurs, mais est-ce que collectivement, on a déjà fait quelque chose d'aussi fort?
Tu seras sur des canons jamais atteints, c'est clair.
Un nul.
Je précise juste une chose par rapport au calendrier qu'on évoque depuis quelques minutes. Alors oui, il y a des matchs très intenses, le dernier en date, Wolverhampton, on l'a vu. Sauf que le nombre de matchs diffère très peu, en fait, par rapport à la saison dernière. Parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs en plus, donc deux rencontres en plus, d'accord. Mais après, à part ça, Liverpool joue jusqu'à la fin de la saison.
Le même nombre de matchs. C'était loin, quand même, de la base.
Mais je veux dire, c'est le même nombre de matchs que la saison dernière.
Avec toujours les mêmes attaquants.
C'est que c'est Klopp qui tourne extrêmement peu. Alors pourtant, il a un banc qui est quand même pas inintéressant, mais c'est lui qui tourne avec 15 joueurs.
Salim, il n'y a pas très longtemps, il avait dirigé une équipe de jeunes qui avait très bien gagné, Jurgen Klopp, une des compétitions aussi, si je ne me trompe pas, c'était la Coupe de la Ligue, non?
La Carabao Cup. Ils en ont pris une contre Aston Villa, 5-0.
Celle-là, mais ensuite, là, depuis le retour, c'était contre Everton.
Ah oui, pardon. Oui, en fait, il avait mis une équipe A prime, en quelque sorte, face à Everton, effectivement.
Shaqiri, Origi,
mais c'était
tout le monde.
Pas l'équipe A.
C'était avec quand même
avec
les remplaçants. Effectivement, ils avaient gagné 1-0 face à Everton. Oui. Dominant et archi-dominant de Everton ce jour-là, Everton qui avait mis son équipe type. Donc oui, les jeunes ou en tout cas les remplaçants peuvent le faire. Mais là, j'insiste,
il y a de l'espoir quand même.
Pour ce match-là, ce ne seront même pas les remplaçants. Ce ne seront que les jeunes, ceux qui ont 19, 20 ans, grand maximum.
Bon. Non mais c'est vrai que c'est phénoménal ce qu'il arrive à faire. Alors ce qui veut dire quand même une chose qui est importante, parce qu'il doit permettre même aux observateurs et même au monde du football de voir le football différemment, c'est qu'on peut jouer des matchs quand on est footballeur. Non, mais ça, c'est important. Parce que jusqu'à présent, la théorie, c'est de dire qu'on ne peut pas aligner les matchs. Parce que les joueurs se blessent, parce qu'il y a de la fatigue mentale, si ce n'est physique, mentale. Et puis, au final, vous avez le contre-exemple absolu avec Liverpool. Les attaquants jouent tout le temps. Ça ne leur pose pas visiblement d'énormes problèmes. En plus, ils sont internationaux. Et puis, pas n'importe quel international. Vous avez deux Africains devant qui partent en Afrique pour des matchs internationaux. Mmh. Vous avez un Sud-Américain qui part soit en Amérique du Sud, soit en Arabie Saoudite, tournées, ou
machin,
à Dubaï,
au Japon,
ou
là,
ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que même dans la vision qu'on peut avoir du foot, au final, on peut se dire, bah, finalement, toutes les grandes théories qu'on avait, qui étaient qu'on ne pouvait pas jouer, on ne pouvait pas aligner les matchs.
Mais là, il y a un écueil.
Il y a une possibilité.
Et juste pour ce replay, Liverpool-Shrewsbury, Liverpool qui a compris qu'il y aurait que des jeunes, en tout cas les dirigeants ont compris qu'il y aurait quasiment que des jeunes, ce serait que Shrewsbury en face. Donc ils ont décidé de baisser le prix des places, un maximum, 10 livres la place pour aller voir un match en on-field, c'est pas grand-chose, mais un match officiel, parce que Liverpool veut absolument remplir le stade et donner une bonne image, même si c'est Liverpool-Shrewsbury, même si c'est un replay, et ben on est capable de remplir le stade.
Et votre pronostic ?
To be true, c'est ça ?
Ça va pas être évident, ça va pas être évident. Ouais. Mais Liverpool quand même à domicile.
Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, eh bien, l'une des deux équipes se retrouverait face aux Blues au tour prochain.
Tout à fait, Chelsea-Liverpool en 8e.
Avec la cabeza un poco. Con la cabeza,
non,
voilà.
Attention, il y a des caméras qui nous prennent en photo. Non, c'est pas nous. En fait, c'est Atem Ben Arfa.
Zut, j'étais en train de me mettre bien, je remettais les cheveux.
Le gel,
tout,
alors.
Le gel.
Tout de suite, le bruit vous a conditionné, cher Hervé. Eh bien oui, Atem Ben Arfa, il a choisi de jouer, de poser ses valises en Espagne, et pas n'importe où, à Valladolid, ville de Castille, au milieu des vignes, nous a précisé Alejandro Valente. Le Real Valladolid, dirigé par son propriétaire, Ronaldo, et oui, le vrai, hein, R9.
Le gros.
Le Brésilien. Non, moi je me refuse à dire ça. C'est le vrai Ronaldo, la star, l'ancien de Milan, le phénoméno, voilà. Pour ceux qui s'en souviennent encore. Les deux hommes ont posé ensemble donc hier soir, ça vous a étonné, vous avez aimé cette photo, Salim, pour ceux qui vous suivent sur Twitter.
Se demander qui est Ronaldo et Atem Ben Arfa, on ne sait pas, en filant sur la photo.
Oui, bon alors là, vous avez donné un indice.
Petit taquin.
Atem Ben Arfa,
oui, taquin, là, parce que...
qui a joué son dernier match, Hugo, en portant les couleurs de Rennes, et c'était il y a 8 mois, je crois, j'ai compté.
Oui, c'était au printemps dernier. Elle n'a aucun sens, on ne va pas se mentir, la carrière de Ben Arfa, quand on pense à ce qu'on lui promettait à ses débuts, lorsqu'il était le prodige de l'INF Clairefontaine, hein, l'institut de formation, lorsqu'il remportait l'Euro
Zidane,
des moins de 17 ans en 2004, mais il devait même être un peu plus qu'un futur Zidane. Pourquoi pas un futur Ronaldo ? Pourquoi pas, quelque part, l'égal de Lionel Messi ? Pas été vraiment tout cela. Il a beaucoup déçu. Sa carrière est un peu à l'image du joueur. Beaucoup de dribbles, beaucoup de feintes, beaucoup de zigzags, beaucoup de déséquilibre dans les défenses adverses. Beaucoup de déséquilibre aussi pour sa propre équipe et pour sa propre carrière. Beaucoup de ruptures, hein, un vrai jeu en rupture et des ruptures difficiles avec ses clubs. Hein, qu'on songe à la manière dont il a quitté Lyon, la manière dont il a quitté Marseille, la manière dont il a quitté Newcastle, la manière dont il a quitté bien évidemment le Paris Saint-Germain ou encore Rennes, puisqu'il était parti en Zingant, tout simplement, pardon pour le terme un peu familier, son entraîneur Julien Stéphan. Mais c'est aussi une capacité Ben Arfa à disparaître durant un match, durant sa carrière, et puis à renaître de ses cendres, avec des éclairs de génie. Nice, il signe sa plus belle saison 2015-2016 sous les couleurs des Aiglons, 17 buts en 34 matchs. Les 6 mois qui précèdent, il ne joue pas. Il est tout simplement au chômage technique, plus ou moins, à Atem Ben Arfa. Il ne joue pas lors de sa deuxième saison au PSG. Pourtant, il parvient à renaître avec Rennes. Là, il n'a pas joué depuis plus de 6 mois. Il va peut-être renaître avec Valladolid. On lui doit aussi un certain respect, ne serait-ce que pour son palmarès. 5 Ligue 1 au passage pour Atem Ben Arfa, même si elle a toujours joué un rôle primordial dans l'acquisition de celle-ci. Et puis 15 sélections en équipe de France, 2 buts. Il a notamment participé à l'Euro 2012 et ça s'était mal terminé, notamment dans le vestiaire, avec des mots échangés avec son entraîneur. C'est Atem Ben Arfa.
Alors l'art de rebondir, en tout cas, souvenons-nous de cet éclair de génie.
Ben Arfa. He's away from Ricketts. Now then, Cissé wants it played through now, and Ben Arfa delays it. Ben Arfa all the way. What a goal! That's a Ben Arfa! A magnificent goal! Lionel Messi would have been proud of that one. It needed something special to light up St. James's.
Ben Arfa, c'était contre Bolton, du temps où il jouait à Newcastle en 2012.
Il en avait mis un exceptionnel aussi contre Blackburn.
C'est ça, ouais.
C'est magnifique.
Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur, Naïm, qui nous a, qui est un virtuose sur un terrain quand même,
oui,
balle au pied,
oui,
qu'on aime voir. Et on a bien vu comment il avait emmené Rennes très loin. On a bien vu comment il avait emmené Nice à cette époque-là.
Ben, je suis pas sûr que Rennes, il ait été tant que ça le meilleur joueur de l'équipe, même si la saison dernière pour Rennes avait été exceptionnelle, avec notamment la finale de la Coupe de France. Mais
surtout son match contre le Betis Séville, c'est surtout
en Coupe d'Europe, en Europa League,
il y a eu comme une échelle de Betis Séville. En Europa League. Et puis, bon, à Nice, c'est vrai, c'était plus constant, on va dire.
La carrière d'Athem Ben Arfa n'a pas vraiment de sens. Je peux l'entendre. En même temps, il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que Ben Arfa, pour exister, pour être fort, pour être à son niveau, il ne peut faire que des clubs moyens. C'est-à-dire qu'on peut être surpris de Valladolid, on peut être surpris de Rennes, de Nice, de Newcastle. Mais c'est un joueur qui, chaque fois qu'il s'est retrouvé dans un grand club, n'a jamais existé. Pour diverses raisons, il n'a peut-être pas toujours eu tort. Mais le voir revenir à Valladolid, ça ne me choque pas plus que de le voir signer à Nice ou de l'avoir vu à Newcastle. Sur un geste, une action, un dribble, il est capable d'enflammer tout le monde sur un crochet, il élimine deux joueurs et ça devient un génie. Sur le moyen terme, je ne parle même pas du long terme, parce que le long terme n'existe pas à Katem Ben Arfa. Sur du moyen terme, je suis plus mesuré, surtout qu'il va avoir 33 ans au mois de mars. Il n'a pas joué depuis 8 mois. Moi, je peux entendre que quand il a quitté Newcastle, avant de revenir à Nice, il n'a pas joué 6 mois. Mais ça a bien marché. On peut me dire, oui, mais il fait deux séances par jour avec un préparateur physique, il fait du squat et des machins. Rien ne remplace la compétition quand on est footballeur. J'espère, parce que j'aime le foot, que sur certains matchs, sur certains gestes, il va me régaler. Je ne crois pas plus à son aventure à Valladolid que j'y croyais à Rennes ou à Nice.
En tout cas, il a toujours mené le chaud et le froid. Il a toujours été, et d'un côté, presque Calimero, écoutez.
Moi, je ne revendique rien ici. Ni un temps de jeu, ni un poste précis. C'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe.
Ça le définit bien, Hervé, non ? C'est quelques propos.
Oui,
je crois que c'était à l'époque où il était au Paris Saint-Germain, un peu placardisé.
Il a tourné une vidéo un peu lunaire.
Voilà, oui,
sur les bords de Seine.
Voilà. Jaune, Marcel Jaune.
Je le connais bien.
C'était à l'époque de Unai Emery. Alors, quand on connaît le chemin d'Unai Emery, on se peut se dire aussi que c'est peut-être passé d'un élément qui aurait pu lui servir. Parce que Athem Ben Arfa, sur un terrain, vous venez de le dire, Naïm, après, ça dépend de beaucoup de.
Mais je vous ai dit aussi que dans les grands clubs, il ne pesait pas énormément.
Oui.
Mais moi je le connais bien parce que enfin très bien parce que je l'ai suivi à Lyon, je l'ai connu jeune, j'ai parlé des heures avec lui, ça je peux vous dire.
Et alors
à Marseille, etc. Son gros
Et vous
problème.
Vous avez raconté pourquoi il part à Valladolid?
Non, je l'ai pas eu depuis pour Valladolid, mais je suis assez d'accord. C'est-à-dire que le problème des grands clubs, c'est qu'on vous est attendu finalement sur ce que vous savez de moins bien faire. Alors que dans les petits clubs, il sera attendu sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire les différences individuelles. Sur les grands clubs, on vous demande la différence individuelle, comme tout, vous prenez le PSG par exemple, sur tout ce qu'il est capable de la faire, ça, c'est pas un souci. En revanche, quand vous demandez, c'est là-dessus aujourd'hui qu'on travaille notamment au Paris Saint-Germain, défendre, ses replacements, rien qu'au moins faire ses efforts de replacement. Et lui, il a toujours eu un problème, à mon avis, ça a été son gros défaut de toute sa carrière, c'est sa concentration. Il n'est pas capable de se concentrer. Donc, c'est-à-dire qu'il fait son action et après, le match, c'est terminé. Donc, si quelqu'un le rappelle à l'ordre, je me souviens bien de Guéretz ou Deschamps disant « Mais Athem !» Il piquait un sprint. Il n'avait pas envie de ne pas faire l'effort. C'est qu'il n'est pas complètement dans un projet collectif de cette manière-là. Donc, il faut le prendre pour ce qu'il est. Effectivement, c'est pour ça que je trouve qu'un club comme Valladolid, pourquoi pas. Je suis un peu surpris du timing, pour tout vous dire. Parce que je me dis, si Valladolid le voulait vraiment, mais pourquoi ils attendent maintenant?
En plus, ils n'ont pas besoin d'attendre le mercato.
Mais pas lui, ils
avaient
qu'à prendre il y a deux mois.
C'est très étonnant. Je me suis un peu posé la même question.
J'ai pas bien compris. Alors, soit il attendait un autre club et puis qu'il n'est jamais venu. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait absolument aller en Espagne. Lui, son rêve, c'était l'Espagne. Galatasaray était prêt à lui mettre un paquet d'argent. Il n'a pas voulu aller à Galatasaray. Oui, ça, il l'a. Mais oui, mais attendez, là, il était au chômage.
Paris Saint-Germain.
Il était au chômage. Donc, le chômage pour un footballeur, c'est comme tout le monde, c'est qu'il y a un maximum. Je ne sais pas combien,
Hervé,
un millier d'euros.
Vous savez combien il gagne au Paris Saint-Germain?
Oui, non, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que même dans la logique.
Mais dans la
logique pécuniaire, on peut toujours se dire bah, tiens, je vais quand même aller dans un club parce que bien je préfère sûr. Gagner 200 000 euros par mois que 15 000. Parce que mine de rien, au bout d'un moment, bah, parce que là on a six mois sans rien, mais ça aurait pu être un an, ça aurait pu être deux ans, et ça va vite, hein, l'argent qui file.
Est-ce que Salim, dit Hervé, le côté Espagne, c'est vrai qu'au final, à Athem Ben Arfa, on s'est souvent dit qu'après la France, la logique, dans son style de jeu, j'entends, logiquement, ça aurait été l'Espagne. Alors que l'Angleterre, lorsqu'il a tenté une question, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas à Newcastle en Angleterre, son style de jeu ne collerait pas du tout. Là, au moins, le jeu espagnol. Après, Valladolid, je ne vais pas faire croire que je regarde Valladolid tous les jours, donc je ne connais pas.
Si, tu regardes très souvent Valladolid.
Je ne regarde pas.
Non, mais ils donnent du fil à retordre à leurs adversaires. Ils ont eu du mal avec le Real Madrid.
Donc, en tout cas, le jeu espagnol, pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Tu as raison de souligner que le jeu espagnol est fait pour Ben Arfa, comme on le disait pour Samir Nasri quand il a été au FC Séville, c'est des dribbleurs, des joueurs techniques. C'est quand même une équipe qui est en grande difficulté, qui n'a pas gagné depuis le mois de novembre. Et si Ben Arfa, il joue dans la surface adverse et que dès qu'il perd le ballon, il se met les mains sur les hanches et regarde les mecs jouer, il va avoir des problèmes avec Sergi, l'entraîneur.
On verra ça en tout cas. C'est vrai que cette équipe de Valladolid, pour l'instant, elle est 16e.
Il pourrait jouer Majorque, d'ailleurs, ce week-end.
Elle est 16e de Liga. Oui, bon, on verra s'il a la forme physique, là. Si l'entraînement, ouais. Justement.
Ah bah, il a en fait tout cas, deux séances par jour, hein. Attention.
Sur l'Angleterre, on est un petit peu méchant parce qu'on se souvient de l'énorme blessure qu'il avait dès le début de sa carrière.
Il a fait des bonnes choses à Lyon et à Marseille.
Non, mais ça a changé.
Ça, c'est très clair.
L'Angleterre, ça a mal commencé.
Ça a très mal commencé. Encore une fois, malgré tout, j'insiste, le jeu anglais n'était peut-être pas fait.
Mais on est content de le revoir, ça c'est important. Moi, j'espère qu'il va réussir.
Alors, vous allez regarder Valladolid le week-end.
Absolument. Mais ça va donner envie de voir, en tout cas, Valladolid.
Eh bien, en attendant d'aller à Valladolid, un petit tour par la Hollande. Non, Hollande.
Österreich war mir zu easy, jeder wusste, ich muss fortgehen. Manchester, Juventus, jeder wollte den Boss von Norwegen. Doch ich ging zum BVB und bringe Dortmunds Torregen. Denn mir schmecken Tore viel besser als Vorschusslorbeeren.
Alors, c'est du Norwégien, n'est-ce pas, Haaland?
J'ai bien reconnu, parce que parlons encore en Norvégien.
Nous, on dit Haaland, tout simplement. En tout cas, il change de club, il change de championnat, mais son pied reste magique. Erling Haaland a encore marqué cette fois un doublé, et le voilà déjà à 5 buts en à peine une demi-heure de jeu en Bundesliga. Son entraîneur, Lucien Favre, eh bien, ne peut que reconnaître son talent.
Vous ne pouvez pas ménager Haaland. Il veut toujours gagner. Pour moi, en tant que coach, c'est fantastique d'avoir des joueurs comme lui.
Haaland. Hervé, ça vous inspire?
Ça m'inspire. Haaland. Eh ben, je le trouve très bon. Mais c'est un phénomène. C'est-à-dire ce qu'il a réussi à faire.
Incroyable.
Ce qu'il a fait en une demi-heure, ça présage pas de l'avenir. On verra bien.
Lucien Favre, on l'avait passé juste avant qu'il commence en Bundesliga. Il avait dit non, il faut qu'il s'habitue à son nouveau championnat. Alors, il faut lui donner du temps, quoi. Et finalement, premier match. Triplé.
Oui, bon, il a baissé. Hein. Sur le deuxième match, il a mis 2 buts.
Hugo ?
Oui, triplé en même pas une demi-heure, même pas 20 minutes. En à peine 20 minutes de jeu.
Il rentre en fin de match.
5 buts en 2 apparitions et aucun match complet. Et ça va aller vite, hein, son portrait. Ce sont des chiffres plus éloquents les uns que les autres. Il est né le 21 juillet 2000, donc il n'a même pas 20 ans. Il mesure 1m94. C'est vous dire solide. S'il est grand, il est solide. Il a une tête à jouer les méchants dans certains films d'action. 27 buts en 29 matchs avec Salzbourg en Autriche. Et puis, donc déjà 5 buts inscrits avec Dortmund. 8 buts en Ligue des Champions cette saison avec Salzbourg. 8 buts étendus sur 5 matchs dans un groupe qui comprenait, excusez du peu, Liverpool et Naples. C'était la première fois qu'il disputait la compétition, excusez du peu.
Oui, c'est d'ailleurs pas pour rien que Dortmund l'a fait venir. Hein. Il y a encore la Ligue des Champions pour lui. En quelques instants, dites-moi, Haaland, c'est quoi pour vous et qu'est-ce qu'il représente ou qu'est-ce qu'il peut représenter pour le PSG ? Hervé.
Ah bah une menace, hein. Évidemment une menace, mais c'est un footballeur ultra moderne. C'est même on a l'impression du footballeur du futur, sur le peu d'action qu'on a pu voir, parce que moi je le connais pas parfaitement, mais j'ai vu beaucoup de ses buts. Alors, il est grand. Bon, alors de la tête, il n'a pas énormément de soucis, même si c'est pas là-dessus que je l'ai vu le plus fort. C'est qu'il est capable de prendre la profondeur, il va très vite. Et il a une qualité de pied incroyable.
C'est ça, ouais, il est étonnant.
Ma phrase va faire peur à certains. Je le mets dans la même catégorie, attention, hein, que Mbappé. Je m'explique. Quand Mbappé est sur le terrain, on a peur d'avoir Mbappé quand vous êtes adversaire de... Ben, Haaland, il donne cette même impression-là. Il fait partie déjà de ces grands et peut-être prochainement de ces très grands joueurs. Dès que vous l'avez en face, vous avez peur. Et c'est ça qui est effrayant. C'est qu'il y a 19 ans, il donne déjà cette impression.
Eh ben, on va le retrouver face à Mbappé, justement.
Je vous l'ai dit, c'était la semaine dernière. Où il y a 2 semaines, Paris n'aura pas le droit à l'erreur défensivement. C'est-à-dire que des garçons qui ont parfois un peu tendance à s'oublier.
Oui, parce que Cologne et Augsbourg se permettent pas mal d'erreurs.
Je vais dire un truc. Des défenses qui sont mauvaises et les attaquants qu'on profite pas, on en a aussi. Donc à 19 ans, 20 ans, profiter des erreurs, c'est très bien. Kimpembe, Diallo, Kerrer, pour ne citer que, même Thiago Silva. Mais bizarrement, eux, il ne faudra pas s'oublier sur 180 minutes.
On aura le temps aussi d'y revenir à cette future confrontation entre Haaland et le
PSG. J'ai donné des noms.
Par hasard.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci messieurs. Merci beaucoup à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission et au maestro, à Laurent Salerno. À demain.
7 milliards de voisins.